Né. Ouellette,
bon. En direct,
avec JC et Patricia.
Radio X.
Les finances sont totalement hors contrôle. Les déficits s'empilent, la dette gonfle à vue d'œil. Là, c'est rendu qu'on fait des déficits historiques en chiffres absolus, mais qu'on s'accote sur d'autres provinces parce qu'eux autres aussi ont fait des gros déficits. Et là, c'est la course au déficit. Est-ce que ça va arrêter un jour? Je sais pas, mais notre chroniqueur Vincent Gelozo m'a envoyé, encore une fois, un document, une étude du Fraser Institute qui me jette à terre. Vincent Gelozo, merci d'être là, mais t'es pas toujours bon pour mon moral.
Ben écoute, d'habitude, je finis avec ça, mais comme disait Dunlop à McLachlan, quand j'ai le temps.
Oui, quand t'as le temps, oui. Non, mais écoute, tu sais, je vais juste lire le titre, je te laisse aller avec ça, là. Je vais le traduire. Donc, la grosseur des gouvernements à travers le Canada est en hausse et représente maintenant... Écoute, ça, c'est fou comme de la merde. Représente 44 % de l'économie totale en 2024. C'est fou raide, ça. Et c'est en 2024, ben en fait, c'est peut-être pire, là.
Ben, en fait, c'est... non seulement, c'est... Ça, c'est pour le Canada en ensemble, le chiffre que tu viens de
ouais.
dire. Donc, à peu près... 2 $ sur 5 au Canada, dans son ensemble, c'est un dollar que le gouvernement a dépensé ou a touché d'une manière assez importante. Quand tu regardes dans certaines provinces, disons la Nouvelle-Écosse, on parle de 3 cinquièmes, donc 60 %.
Wow.
Puis le Québec, c'est 1 sur 2. Donc, c'est quand même des États qui sont... puis là, on prend la somme des gouvernements municipaux, des gouvernements provinciaux des et du gouvernement fédéral. Et on se retrouve avec cette proportion-là.
Mais que veut dire exactement l'affirmation « représente un dollar sur deux » Donc, c'est de l'économie inexistante. C'est de l'argent public investi par le public, récupéré par le public?
Ça inclut plusieurs choses. Premièrement, ça va inclure la consommation directe que l'État... fait. Donc, l'État achète des services.
Ouais.
Donc, ils font des contrats pour acheter des crayons, pour acheter des ordinateurs, pour acheter des bateaux de guerre. Donc, ça, c'est comptabilisé comme une dépense de consommation ouais. des gouvernements. Mais aussi, après ça, ils vont faire des dépenses de transfert. Donc, ils vont taxer à un pour donner à l'autre. Ils vont taxer à un pour fournir un service à la population, par exemple, des hôpitaux ou des écoles. Et si tu arrives avec cette proportion-là de tous les types de dépenses des gouvernements, de 44 % pour le Canada, 50 % pour le Québec, 60 % pour les provinces maritimes.
Mais c'est... Tu sais, cette tendance-là, on la voit, puis dans l'étude que tu m'envoies, on étudie de 2007 à 2024, c'est on the rise partout, tout le temps. Comment freiner ça? Là, écoute, là, c'est comme devenu à la mode, puis j'en suis fort heureux. Là, même le PQ, là, les rois de la social-démocratie, nous parlent de couper des fonctionnaires, nous parlent de couper dans l'État. On n'y arrivera pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens où à un moment donné, il va falloir que ça fasse mal? Là?
Bon, écoute, j'aimerais répondre à une autre question avant que tu ne m'as pas posée.
Oui? C'est
pourquoi faudrait le faire?
Je pense pas qu'il faut. Pourquoi faudrait le faire?
La raison, c'est que les gens pensent que la taille de l'État en pourcentage de l'économie, c'est quelque chose qui te donne une idée d'à quel point l'État est bon. Mais c'est pas la bonne manière de faire. Tu devrais te considérer qu'est-ce que l'État fournit comme service et à quel coût il le génère. Si l'État est trop gros, bien, il peut ralentir la croissance économique, ce qui fait que, disons, l'année prochaine, bien, il y a moins d'argent disponible total. Donc, un État, disons, qui serait une économie qui serait trois fois plus grosse parce que l'État est juste la bonne taille, mais c'est un État qui va pouvoir dépenser en dollars beaucoup plus qu'une économie qui est plus petite, qui a un État beaucoup trop gros. Donc, l'idée ici, c'est que ce qu'on veut aussi, c'est tenir compte de l'avenir et qu'un État trop gros peut ralentir la croissance.
Et on a des exemples.
On a une grosse littérature en économie là-dessus, puis il y a un range, mais le range à peu près... Pour le Canada, c'est entre 26 et 30 %. Donc, tu dis que l'État qui maximise la croissance, il est quelque part entre 1 $ sur 4 et 1 $ sur 3 de l'économie qui est touchée par l'État.
Donc, dans le tableau que tu m'as envoyé, là, il n'y a que l'Alberta qui atteint ce niveau-là de 30 %.
Exactement. Donc, l'Alberta est au seuil supérieur, est à 30 %. J'ai vu d'autres études qui se rapprochent de 40, mais même à 40, t'es au-dessus pour la plupart des provinces canadiennes. Donc, t'es plus dans la zone, le sweet spot, comme on dit, pour maximiser la croissance. Ouais. Fait que pourquoi, c'est pour ça. C'est que si on veut une société qui est capable de s'enrichir, qui est capable d'avoir du développement économique, puis je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais le PIB, c'est pas tout ce qui compte. » Mais le PIB est corrélé avec toutes les autres affaires que vous trouvez qui comptent. Fait que si vous aimez pas plus de PIB, ben c'est parce que vous comprenez pas exactement c'est quoi qui mesure. Donc, ça s'améliore. C'est un bon indicateur de toutes les choses qui devraient s'améliorer. L'espérance de vie, les salaires, le loisir, le temps libre, l'espérance de vie ajustée pour genre des maladies. Donc, combien de temps tu peux jouir de ton temps de vie. Donc, t'es pas avec des maladies débilitantes ou avec des blessures qui t'empêchent de travailler. Donc, on parle vraiment des dimensions très larges de l'espérance de vie. Bien, tu veux en avoir plus. Tu veux avoir une qualité de vie supérieure. Bien, ça veut dire plus de croissance économique. Et un État qui est trop gros, bien, il ralentit la croissance économique, donc l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on le fasse et qu'il faut qu'on coupe. Puis au Québec, on est définitivement dans la zone où est-ce que... Même si tu prenais les plus gros chiffres possibles de c'est quoi le sweet spot, le Québec est nettement au-dessus de ce que tu devrais avoir.
On est à 50 %.
On est à 50 %, mais non seulement ça, mais les années du gouvernement, on nous avait dit, écoute, moi, je trouve toujours ça drôle quand j'entends les gens dire, ah, au Québec, il y a eu une période d'austérité, il y a eu du néolibéralisme. Écoute, l'État québécois, tous les États au Québec, c'est resté, il n'y a pas une année que c'est tombé en bas de 47 % depuis 2007. C'est passé de 47 %, donc presque un dollar sur deux. C'est monté jusqu'à 49 à la fin des années de Mme Marois. Sous les libéraux, c'est redescendu de 49 à 47,8. Ouais. C'était pas une grosse baisse.
La fameuse austérité.
La fameuse austérité, qui est, j'appelle ça l'hystérité, là, parce que c'était... s'il n'y avait aucun sens, comment il n'y avait aucun fondement factuel dans cette conversation-là. Puis aujourd'hui, tous les États confondus au Québec, ils sont plus gros que ceux que M. Legault avait... Lorsque M. Legault est arrivé, ouais. Donc on prend la date tout de 2018, comme, c'est plus gros. Et en fait, ça voudrait souligner que quand tu fais l'exercice, c'est pas dans le truc du Fraser, mais si tu fais l'exercice de dire, bon, mais qu'est-ce qui arrive quand le budget de la semaine passée que M. Girard avait proposé, qu'est-ce qui va se passer s'il atteint les cibles qui arrivent? Est-ce que ça va arriver à des niveaux plus bas qu'avant, disons, 2007? La réponse, c'est non. On retourne à peine à ce qu'il y avait avant la pandémie. Donc, on n'a pas... On n'est pas... Il n'y a pas de resserrement très, très dur de la facture, des dépenses. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on se retrouve dans une zone où le Québec pourrait avoir beaucoup plus de croissance économique s'il se mettait à identifier des postes de dépenses du moins utile économiquement et socialement jusqu'à ceux qui sont le plus utiles, puis commencer au top de la liste, puis y aller un par un jusqu'à ce qu'on arrive dans le sweet spot.
Et, tu sais, mettons qu'on enlève l'épisode de l'hystérité, la fausse austérité, où on a simplement diminué, by the way, la progression des dépenses. On n'était pas dans le moins nulle part. Si on enlève cette petite période-là, où d'ailleurs, il y a eu beaucoup de réactions, hein? Il y a des syndicats, puis les intervenants, là, ça s'arrachait la chemise partout sur les bulletins de nouvelles, la télévision, d'un show de radio. À part cette petite période-là, c'est quand la dernière fois qu'on a fait du ménage? C'est quoi? Ça remonte à Lucien Bouchard, puis avant ça, René Lévesque. Il me semble qu'avant, tous les 10-15 ans, il y avait une espèce d'obligation morale de l'État de dire « on est trop gros, on l'a échappé, il y a une crise, on coupe ». René Lévesque, dans les années 80, a coupé 20-25 % de la fonction publique. T'sais, c'est ce qu'on appelle des coupes, là. Pourquoi on est devenu allergique à ça? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire?
Ça n'a jamais été allergique. Y a un problème en économie qui s'appelle l'illusion fiscale. Puis peut-être le mot est fancy pour les économistes, mais ce que ça veut dire, c'est tu kicks la canne.
Ouais.
Ou tu peux penser à une patate chaude, tu peux penser à un jeu de chaise musicale. C'est que les politiciens ont toujours un avantage à encourir des déficits parce que les bénéfices politiques du déficit, ils sont immédiats. Alors que les bénéfices politiques des surplus budgétaires sont dans l'avenir. Donc, le politicien qui agit avec discipline fiscale et qui réduit la taille de l'État pour maximiser la croissance, il n'a aucun bénéfice dans le court et moyen terme. C'est uniquement dans le long terme que les bénéfices, la discipline fiscale se voient et d'un État qui se restreint peut être vu. Le problème, c'est qu'éventuellement, il y en a un qui se retrouve puis il n'y a plus d'espace fiscal pour faire quoi que ce soit. Donc, quelqu'un a la patate chaude dans les mains. On a kické la canne aussi loin qu'on pouvait. C'est ça, l'illusion fiscale. Et, bien, M. Couillard avait été celui qui avait une patate chaude. M. Bouchard était quelqu'un qui avait eu une patate chaude. M. Lévesque était quelqu'un qui avait eu une patate chaude.
Entre Couillard et Bouchard, écoute, il y a eu de la patate chaude qui a été ignorée. Là. Je veux dire, on a vu l'État exploser, grossir, s'engraisser. Oui. On a laissé ça. Pourquoi certains politiciens étaient capables de le verbaliser et de le faire comprendre? Je sais que c'est une question un peu dans le vent parce que, je veux dire, bon, on a la qualité de politicien qu'on mérite des fois, mais il y a quand même un temps où on était capable d'expliquer ça aux gens, la logique mathématique.
Non, écoute, il faut se rappeler, Jean Charest, ancien chef conservateur, avait fait campagne dans les années 90 quand il était chef des conservateurs fédéraux sur des coupures massives dans les dépenses publiques. Il avait été
tout un conservateur.
Il se présentait comme étant fiscalement très conservateur et arrive au gouvernement au Québec et fait des dépenses publiques absolument exceptionnelles. Il augmente la taille de l'État, il nettoie, il salit tout ce que Lucien Bouchard avait nettoyé, dépensé sans compter, donc un des gouvernements les moins fiscalement responsables qu'il y a eu. Mais c'est pas parce que M. Charest avait des bonnes idées ou des mauvaises idées, c'est parce qu'il avait tous les bénéfices politiques de faire des déficits. C'est-à-dire que la maison était en ordre, ben on peut donner des nananes à telle personne, on peut donner une autre personne, on peut donner des cadeaux ici et là. Il y a tous les bénéfices politiques immédiats. Et c'est pas parce que M. Couillard, plus tard, était une personne qui était nécessairement meilleure, c'est qu'il y avait des incitations qui étaient différentes dans ce contexte-là. Ces incitations étaient celles d'une situation qui était liée à une situation dans laquelle on ne pouvait pas emprunter facilement, dans laquelle les coûts de l'emprunt étaient plus élevés, mais aussi qu'il n'y avait plus de marge pour taxer énormément. Donc, il n'y avait pas vraiment le même choix que M. Charest avait. M. Couillard a fait les disciplines fiscales et M. Legault est redevenu ce que M. Charest était. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a tous les bénéfices de pouvoir dépenser avec très peu des coûts, mais ça veut dire que le successeur...
Lui, il a la patate chaude à ramasser.
Lui va avoir la patate chaude. Donc, c'est ça le jeu de l'illusion fiscale, c'est qu'il y a toujours des bénéfices immédiats de dépenser, mais les bénéfice de la, comment dire en anglais, restraint, d'être posé, prudent, modéré, de ne pas trop dépenser, donc de la discipline fiscale. Ces bénéfices-là sont toujours après que tu aies fini de siéger dans ton siège de premier ministre.
Après la pluie, le beau temps, et t'es celui qui quitte après la pluie, ben voilà, c'est l'autre qui ramasse.
Exactement, ou comme ils disent, après moi, le déluge.
Oui, c'est plus ça, t'as raison. Merci Vincent, ben merci en tout cas, ben, merci de m'informer de ça. c'est sûr que j'ai dit que la chronique de Catherine Loubier était sous le thème de l'espoir. La tienne aussi, mais ça demande du travail, c'est de l'espoir qu'il va falloir travailler.
Écoute, quand j'ai le temps.
Oui, salut. deux fois, c'est un record. Salut. Vincent Geloso, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Un gars qui a la tête sur les épaules, à qui on parle à chaque semaine. 14h31, après la pause, Madame Patricia Vincent vient vous livrer son seul et unique patati et son patata.
Willette.
Non, 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 non.
En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.